Depuis 2019, la Pologne est le théâtre d'un conflit géopolitique orchestré par le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Pour déstabiliser l'Europe, il encourage des milliers de candidats à l'exode venus d'Afrique et du Moyen-Orient à transiter par son pays pour entrer sur le territoire européen. Les migrants, livrés à eux-mêmes, se retrouvent contraints d'escalader le mur de 200 km érigé par le gouvernement d'extrême droite polonais en 2021. De l'autre côté, c'est la plus grande forêt primaire d'Europe, marécageuse, sans fin et inhospitalière. Sur ces 300 km² de forêt, se joue une crise humanitaire majeure. Nous nous y sommes plongés pendant un mois, partant à la rencontre de celles et ceux qui tentent de sauver des vies, de ceux qui les traquent, et des migrants eux-mêmes. Vous écoutez Garçons Sauvages, saison 2, dernier passage. Une série de podcasts en 4 épisodes, diffusée par Blast, en partenariat avec Sésame Musique. 3e épisode, dans la forêt des souffrances.
À l'aube, chaque matin, on assiste au même ballet dans notre petite ZAD aux confins de l'Europe. Les équipes de nuit, pleines de boue, les yeux fatigués, reviennent des derniers sauvetages nocturnes. Ceux qui ont eu la chance de dormir quelques heures sont déjà en train de préparer une nouvelle journée sur le front. Ration de survie, vêtements secs, thermos de thé, bonbons pour les enfants, le tout soigneusement empaqueté. Et on est là, au milieu des paquets, des discussions, de la fatigue, micro à la main.
Plein de chaussures partout. Et comment vous recevez tout ça? On vous les donne,
Non, ça, on achète avec l'argent qu'on... Que les fondations nous donnent, oui. Ou bien il y a des organisations qui achètent ça pour nous. Okay. Par exemple, la Polska Akcja Humanitarna, l'action humanitaire polonaise. Donc,
et ça arrive que des sponsors privés, par exemple, les marques
Non, pas tellement. Je crois que soit nous, on achète ça, soit des organisations achètent ça, commandent ça et achètent ça pour nous. Peut-être juste au début, il y avait quelques donneurs privés, c'est-à-dire des marques qui voulaient nous aider, mais ce n'était pas si commun que ça. Ouais. Donc, tout d'abord, c'était l'argent qu'on a collecté. Il y avait vraiment beaucoup de gens privés qui voulaient nous aider financièrement. Donc, c'était un crowdfunding. Ouais. Et on a vraiment collecté beaucoup, beaucoup d'argent. Je me rappelle que là, à l'époque, j'ai pensé que c'est impossible de dépenser tout ça pendant toute la vie. Mais au bout de 2 ou 3 semaines, c'était fini, oui, parce que vraiment, il y avait beaucoup de gens dans la forêt. Et puis, on va vraiment leur donner des vêtements, des chaussures de qualité pour qu'ils se débrouillent ici, dans des conditions comme ça. Donc, ça ne peut pas être n'importe quoi. Ok, donc on revient donc à la maison et là on va faire des paquets, ok, des paquets prêts.
Parfait.
Ok. Więc to jest nasz magazyn, z którego wychodzimy do lasu. Pakujemy plecaki. Żeby sprawnie spakować plecak, to musimy mieć pakiety spożywcze, pakiety ubraniowe, pakiety z czapką, kominem, rękawiczkami.
Elle vient d'expliquer que pour que ça marche vite fait quand on reçoit la demande d'aide, il faut que tout soit déjà préparé en avance. C'est pour ça qu'on fait c'est ce que j'expliquais avant, hein, qu'on prépare d'avance des paquets de la nourriture et des vêtements, et qu'on met donc dans les paquets de vêtements on met toujours du linge thermique, des polars, des pullovers comme ça, des pantalons. Donc on donne aussi toujours des chaussures, on donne aussi des tasses pour la soupe, pour le thé.
Tam mamy termo, do jakie mamy hipotermię, czy...
Là, c'est des C'est comme des feuilles de... Comment t'as dit
pour des couvertures de survie.
Des couvertures de survie, mais ça, c'est vraiment bien.
Un sac de couchage, presque.
C'est presque un sac. Donc, c'est comme un sac à couchage, mais ça isole aussi de l'humidité, du vent. Donc, ça, c'est vraiment... Ça peut sauver la vie.
Ah parce oui, c'est bizarre, survival bag. Ouais, OK. Ouais.
Parce que les petits qu'on met dans des sacs, bon, ça, c'est, tu vois, quand t'as couru pendant longtemps et tu dois te couvrir juste parce que tu as arrêté une activité qui te chauffait avant. Donc, mais ça, c'est vraiment si quelqu'un...
C'est isolant.
C'est isolant, donc si on a des gens qui sont en hypothermie, ça sauve la vie, ouais.
À des milliers de kilomètres de là, hors contexte, on imagine difficilement à quel point ces choses basiques peuvent changer le cours d'une existence. En hypothermie au fond de la forêt, souvent blessé, la moindre couverture, soupe chaude ou barre sucrée, peut faire la différence entre la vie et la mort. Toutes ces attentions portées au matériel emmené en forêt est cruciale pour chaque intervention.
Tout ça, ça va dans les sacs.
Je vais essayer de faire les sacs. Bouteille d'eau, sac alimentaire et petit sachet de premiers soins. Un sac. Pour partir en intervention. Donc là, il s'agit d'un jeune Marocain qui prétend avoir 17 ans. On ne sait pas encore si c'est son vrai âge ou si c'est pour un mineur, pour justement avoir une aide, faciliter son aide. Basile sera le chauffeur. Et on partira avec trois sacs. Donc Chané, Ola et moi. On va partir en forêt, ça risque de prendre toute l'après-midi. Il va falloir être très 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 discret. Les sacs sont déjà préparés par l'association. Dès que tout ça est dans le coffre, on roule en direction de la forêt. Et puis on va voir ce qui s'y trouve. Je pense que ça va être encore très fort. Chané, est-ce que on...
Peut-être si tu veux mettre le micro, il vaut mieux le faire maintenant pour ne pas le faire dans la forêt. Ouais, on doit être le plus rapide et le plus discret possible.
On va résumer un peu la situation. C'est la fin de la matinée et Alexandra vient de recevoir un appel. Un jeune migrant, la vingtaine, qui se terre dans la forêt serait traqué par les gardes frontières polonais. On va partir avec elle pour tenter de le trouver. On est actuellement devant la voiture avec les fameux sacs de premier secours. Le stress est palpable, la tension monte, cette mission s'annonce plutôt délicate. Le garçon est seul, pas très loin du mur, et si les gardes le trouvent, il a toutes les chances d'être envoyé de l'autre côté, du côté biélorusse. On prend donc la voiture avec Alexandra en direction du point GPS qu'elle vient de recevoir pour démarrer cette intervention en pleine forêt.
C'est marécageux en plus.
Ouais, c'est un peu marécageux. Apparemment, il devrait y avoir ici un chemin que j'ai pas sur la carte.
Tu veux que je regarde sur la mienne ?
Non, non, c'est pas grave, parce que bon, on va la voir s'il ouais. s'il est là. Parce que sinon. Ah, c'est pas gagné quand il n'y a pas de feuilles. Parce que si on entre maintenant sans chemin, on est visible s'il y a la voiture qui s'approche. On peut entrer ici.
Ok. Ça y est, on est dans la forêt. Donc ça y est. On commence à rentrer dans la forêt pour entendre. Il y a des arbres qui barrent le chemin. On est en train de suivre un petit chemin.
Ah, juste essayons de ne pas faire trop de bruit, d'accord? Il faut essayer de ne pas casser les branches. Voilà.
C'est une véritable mission commando à laquelle on participe. Et clairement, dès les premiers pas dans la forêt, Alexandra marque le tempo. On s'engouffre dans un sanctuaire vert immense. On n'entend plus que les branches qui craquent et les chuchotements de notre guide. Elle fonce en silence sur les chemins qui n'existent pas, un seul objectif en tête, retrouver le jeune migrant. Nous, on se demande comment c'est possible de retrouver qui que ce soit dans cette forêt. Mais elle a l'air extrêmement sûre d'elle. Alors on la suit.
Il y a des affaires par terre.
Il y avait quelqu'un ici déjà.
Il y a un hélico qui arrive, faut pas qu'on se fasse cramer. On va se cacher sous les arbres.
Bonjour. Tu as entendu les hélicoptères?
Oui.
De quoi je parle?
Tu parles polonais?
Tu parles français?
Non.
C'est mieux en français ou tu préfères en polonais?
Anglais.
Tu préfères en anglais? Ok, d'accord. Ici, au-dessus de nous, c'est un endroit à découvert. Peut-être que nous devrions aller sous les arbres. Comme ça, si les hélicoptères reviennent, ils ne nous voient pas.
Ok.
Si les hélicoptères te voient, si ils te voient, ils vont envoyer des soldats ou des gardes frontières ici. Donc s'ils nous trouvent, ou si les gardes frontières ou militaires viennent ici, tu dois leur dire ce que tu as dit à mon ami l'autre soir. Que tu souhaites demander l'asile en tant que réfugié en Pologne. Car il est important pour eux de l'entendre.
Oui, d'accord.
Ils vont te mettre dans un camp de détention, comme en prison.
Aucun problème.
Pour plusieurs mois, je ne sais pas. 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être plus.
Maximum
2 ans. Donc, ils vont te laisser partir et tu seras libre si tu entames la procédure de demande d'asile. Tu comprends?
Oui, je comprends. Très important. Je ne veux pas retourner en Biélorussie.
En Biélorussie? Oui, je sais.
Mais pas de problème pour aller dans la prison.
Je vois.
Bon, il a changé complètement d'habit parce que j'ai mis toute la tenue dans... J'ai toute sa tenue dans un sac poubelle. En plus des quelques déchets qu'il y avait. Donc ça veut dire qu'il a été complètement changé.
Probablement, il va demander l'asile quand même. Donc, du coup, je vais appeler des gardes frontières. Mais d'abord, je parle avec lui pour comprendre quelle est la situation au pays d'origine et puis quelle était sa situation aussi en Biélorussie, s'il a subi la violence ou pas. Donc ça, je ne sais pas encore. Je veux d'abord noter bien toutes ces données personnelles. Il n'a pas de papier, il n'a pas de passeport. Il dit qu'il a 17 ans bientôt, mais on ne peut pas prouver ça. Mais quand même, je crois que je vais essayer aussi d'engager le médiateur pour des droits de l'enfant, parce que c'est un peu risqué. Il n'y a pas la situation médicale ici. Donc si on n'appelle pas l'ambulance, je crains un peu comment les gardes frontières vont réagir. J'espère qu'il, s'il déclare qu'il veut demander l'asile, il devrait juste accepter la demande d'asile. Mais il y avait déjà des situations qu'il refoulait des gens, juste comme ça, oui. Donc je préfère aussi informer l'ombudsman, le médiateur pour les droits de l'enfant, toutes les institutions qui pourraient nous supporter.
Okay. Oui. Tu as dit ambulance, pourquoi il est blessé?
Non, ben justement, il est juste un peu blessé, donc ça, c'est pas une raison pour appeler l'ambulance.
Ok.
Il a une petite blessure, donc ça n'a pas de sens.
Ok, d'accord. Très bien.
Azedine, c'est ton prénom?
Azedine.
Ok, Azedine. C'est écrit correctement? A, I, Z, E, double D. Azedine, c'est ça? Azedine? Comment tu le prononces? Oui, tu as essayé de m'appeler?
J'ai essayé de t'appeler, mais je n'y arrivais pas.
Oui, car ici, il n'y a pas de réseau.
D'accord.
Je vois que tu parles doucement. J'imagine que tu es dans un endroit dangereux.
Oui, c'est ça. Tu es en haut-parleur. On parle doucement pour ne pas se faire entendre. Ok, donc on peut parler comme ça. Il t'entend.
Bonjour.
Bonjour.
En quelle langue je te parle ? Égyptien, tu comprends ?
En arabe. Je te comprends.
Allô ?
Allô ?
Est-ce que tu me reçois ? Oui, c'est bon. Tu m'entends ?
Quelle est la raison de ta migration ? Est-ce que c'est pour une protection internationale ?
Il y a eu un tremblement de terre au Maroc. Je suis parti en Ukraine. Puis j'ai pris une autre route pour la Biélorussie. Et puis, je suis venu ici.
Ok, d'accord. En tout cas, bienvenue. Merci Dieu que tu sois arrivé sain et sauf.
Merci.
Quelle est la cause ou la raison de cette demande d'asile ?
Je souhaiterais venir en Pologne pour terminer mes études. Ou en Allemagne.
Ok, c'est clair. Mais quand tu vas faire une demande de protection internationale, tu dois avoir une raison valable. Tu dois les convaincre. Est-ce que tu as une raison valable ou une raison qui explique ta fuite du Maroc ?
Un tremblement de terre. Un tremblement de terre.
Supposons qu'il te renvoie au Maroc. Quelles seraient les conséquences ?
Je n'ai pas de maison au Maroc.
Ok, donc c'est parce que tu n'as pas de maison. Et tes parents, alors ?
Ils n'ont pas de maison. Et je n'ai que ma mère. Mon père est mort.
Mes condoléances. Bon, tu dois bien réfléchir à la raison pour laquelle tu as quitté le Maroc. Car la raison de « je n'ai pas d'argent pour vivre » n'est pas une raison recevable. Si c'est simplement pour cette raison, ils n'accepteront pas ta demande. Ok ? Pour l'instant, il n'a pas vraiment de plan. Il me dit qu'il veut terminer ses études ici ou en Allemagne, par exemple. Mais ce n'est pas très clair. Et de plus, il me dit qu'il n'a pas de maison. Et il ne savait pas qu'il pouvait demander de l'aide. Il lui reste que sa mère. Son père est mort.
Ok, d'accord.
Je lui ai dit qu'il fallait qu'il réfléchisse à un plan, un projet, afin de pouvoir demander l'asile. Car Azedine me dit qu'il n'a pas de maison, ni d'argent. Et il ne me dit que ça. Effectivement, s'il continue de dire uniquement cela, il ne pourra pas avoir d'aide.
Ok, mais il faut lui expliquer, car on lui a déjà dit, mais peut-être qu'il n'a pas compris. On a été coupé. Tu m'entends ? Est-ce que tu me reçois ? Allô ?
C'est assez fou, cette présence des téléphones au cœur de la forêt. C'est un peu... C'est quasiment leur moyen de survie, quoi. C'est un outil de survie comme un autre. C'est un GPS. C'est une manière d'alerter, de se faire contacter, de se retrouver. Et pourtant, on est au milieu d'une forêt primaire. C'est complètement aux antipodes de ce qu'utilise notre jeunesse en France, quoi. Je te dis, y a pas de TikTok, là, bien y a pas Instagram.
How long? How many days? Combien de jours tu es resté dans la forêt? En Pologne.
Mm-hmm. En Pologne, 3 jours.
Et en Biélorussie?
11 days.
11 jours.
11 jours, ok.
Il est 16h30. On a dû partir du village vers midi. Donc ça fait 1h30 qu'on est avec lui, qu'on est statique. Le froid commence à se faire sentir un petit peu, en tout cas pour moi. Il doit être épuisé, puis ça se voit à sa tête, quoi. Apparemment, c'est que les Biélorusses l'ont tapé, lui ont pris sa nourriture et son eau. Si ça fait 13 jours qu'il est là, on peut imaginer l'épopée qu'il a vécue depuis le Maroc.
Je vais enregistrer une vidéo,
okay.
Juste pour avoir une preuve, ok?
Bonjour, je m'appelle Azedine Arishin. J'ai 16 ans, je suis seul en Pologne et je souhaite demander l'asile en Pologne.
Ok, parfait. Merci. Bon, je n'ai toujours pas de réponse du Bureau de protection des réfugiés qui interviennent dans les situations critiques pour éviter les risques qu'ils leur envoient, même s'ils réclament sa demande d'asile. C'est pour ça que je veux être sûre que l'organisme au moins, ou l'organisme et le bureau de l'Ombudsman soient prêts afin d'informer le bureau des gardes frontières. Et qu'ils soient également au courant du fait qu'un mineur sans parents souhaite demander l'asile. Et de ce fait, la situation sera un peu plus sûre.
Dzień dobry, mówi Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Jestem niedaleko Łodzi.
On n'aurait pas aimé avoir à décider à la place du jeune Marocain. Continuer la route sans demander l'asile au risque d'être pris dans un bus, un train ou une forêt en direction de l'Allemagne. Seconde option, s'en remettre aux autorités locales dans le mince espoir d'obtenir le précieux sésame pour rester sur le territoire polonais. Plusieurs milliers de kilomètres de périple qui trouvent leur aboutissement ici, dans un choix pris à la hâte, dans le froid, caché dans une tourbière. On va donc l'accompagner jusqu'aux gardes frontières.
Donc maintenant, les gardes frontières vont arriver par la route. Donc on va marcher jusqu'à la route, ok?
Ok.
Nous allons marcher ensemble. Et quand ils arrivent, et quand tu vois la voiture des gardes frontières, répète en permanence, je demande l'asile en Pologne. Ok?
Ok.
À cause du froid, j'ai plus de batterie sur moi la chef, donc... On va utiliser la solution mouchette de chaîne et le micro qui tient. Dans 200 mètres, on va voir les gardes frontières, voilà. Ça fait maintenant 3 heures qu'on est dans la forêt. Et, 3 jours du côté polonais pour lui, 11 du côté de Biélorusse. Alors, est-ce que c'est la fin d'un périple pour le début d'une longue procédure? On ne sait pas. Donc on a envoyé un message à Basile avec notre localisation pour qu'il puisse nous retrouver. Et là, il lui demande de couper toute la conversation justement pour conserver l'activité du groupe dans l'anonymat afin qu'il puisse continuer à travailler et à aider. Parce que sinon, il y a une chance qu'ils puissent être tracés. Et donc à ce moment-là, s'ils sont tracés, ils peuvent être mis sur écoute et donc démantelés par la suite. Et ouais, on aimerait bien évidemment éviter ça. Il y a une amie de Ola qui est là avec un appareil photo, ce qui peut toujours être utile si jamais ça dérape. Ou voilà, comme preuve. Parce que j'ai l'impression qu'il faut se munir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves pour s'assurer de la bienveillance de la procédure.
Mmh.
Dzień dobry jeszcze raz, Aleksandra Chrzanowska. Ja dzwoniłam w sprawie 17-latka, który się chce ubiegać o ochronę. W tej chwili wyszłam na drogę i widziałam straż graniczną odjeżdżającą w stronę Łodzi, więc można zawrócić patrol. Oni pewnie przejechali i nie zauważyli nas, bo dopiero wyszliśmy. Dobra, dzięki. Okay, they will be back.
Ok, ils reviennent.
Bon, il y a les gardes frontières qui arrivent. Ils nous attendaient, ils sont partis, là ils reviennent. On va voir comment ça se passe. Si ça se passe de manière douce ou pas.
Dzień dobry.
Na starsze krążkę, bo była ogólna taka bać. To pani do nas dzwoniła?
Tak, ja dzwoniłam, ale w tym roku jeszcze jest zawieszenie interwencji prawnej. To jest chłopiec, który mówi, że ma 17 lat i że chłopiec ubiega się o ochronę.
Tu peux leur dire maintenant concernant ta situation.
Je souhaiterais demander l'asile en Pologne.
Ok. A pani ma jakiś dokument?
Tak, mam pełnomocnictwo. Tak, mogę swój dokument, też mam pełnomocnictwo. Ja
się już widziałam. Nie robiłam wcześniej.
Il m'a sûrement demandé de ne pas prendre de photos d'elle. Donc c'est deux border gardes, deux gardes frontières, femmes, qui ne veulent pas être pris en photo. Donc comme a prévenu Ola auprès du jeune migrant, il a dit hautement et fort, intelligible pour tout le monde, qu'il voulait l'asile polonais. Voilà. Donc la procédure va commencer.
Ils vont t'emmener au bureau des gardes frontières. Ok, tu comprends?
Je comprends.
Comment avez-vous communiqué avec lui? En anglais, mais il ne parle pas très bien. Alors on a communiqué un peu avec les mains. Il parle quelle langue alors? Il parle l'arabe du Maroc. Nous avons utilisé un traducteur en arabe et ça a plutôt bien marché.
En 2024, on estime à plus de 30 000 le nombre d'êtres humains qui ont tenté leur chance comme Asdine. Peu seront accueillis en Europe. Beaucoup seront refoulés vers leur pays d'origine, ou pire, vers la Biélorussie. L'urgissement des politiques migratoires aux frontières de l'Europe ne va certainement pas décourager les candidats à l'exil, mais il va rendre plus dangereux encore le parcours de celles et ceux qui se retrouvent au pied du mur. C'est aussi le fondement de l'état de droit et de la constitution européenne qui se trouve fragilisé. Cette crise, qui sera celle du XXIe siècle, pourrait être une opportunité de questionner notre identité en tant qu'Européens et de réfléchir à des politiques d'intégration plus apaisées. C'est ce qu'on va en partie tenter de comprendre dans notre quatrième et dernier épisode.
Vous venez d'écouter Garçon Sauvage, saison 2, dernier passage. Une série de podcasts en 4 épisodes, diffusée par Blast. C'était le 3e épisode, dans la forêt des souffrances. À la réalisation, Basile Crespin, Louis Lemaire de Pas et Chanel Le Foll. Travail journalistique et production éditoriale, Basile Crespin et Louis Lemaire de Pas. Enregistrement et post-production, Chanel Le Foll. Traduction des voix originales, Susanna Nook et Karl Gravier. Doublage des voix françaises, Sandy Le Foll, Benjamin Louis, Karl Gravier, Basile Crespin et Louis Lemaire de Pas. Une production Garçon Sauvage, en partenariat avec César Musique.